Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais.
Vous êtes sérieux?
Mais est-ce que les petits pas suffisent? Eh bien la réponse, elle est non.
Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs.
Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non.
On va tous mourir!
Le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies.
Make our planet great again.
Allô, ici la Terre, tu m'entends?
Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien.
Bon, non, on n'en sortira pas.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Bah rien, qu'est-ce que vous voulez faire? Éteignez en dehors.
Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tati Flingueuses. Ce numéro est un peu spécial, c'est un numéro hommage. En effet, il y a quelques semaines maintenant, Danielle Nocher nous a quittés. Danielle était une de mes tatis de cœur et d'esprit, une des tatis flingueuses, et elle me manque beaucoup. Elle nous manque beaucoup. Alors avec Guylaine, bonjour Guylaine.
Bonjour.
Sylvie, bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Mais aussi avec Emmanuel, derrière la platine, et Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Nous avons décidé de faire un épisode spécial, un épisode qui lui soit dédié, un épisode pour nous rappeler tous ces bons moments passés ensemble à parler d'environnement, sans tabou et toujours avec bonne humeur. Un épisode pour clôturer aussi ce podcast des Tati Flingueuses qui, s'il revient un jour, ne sera forcément plus jamais comme avant. Alors, pour commencer, on s'est posé la question de d'où ça nous était venu, cette idée des Tati Flingueuses. Et il me semble que c'est Benjamin qui en a parlé la toute première fois.
Alors d'habitude, vous ne m'entendez pas dans ce podcast puisque je le produis, c'est-à-dire que je suis derrière les micros. Et on s'est dit que c'était intéressant de revenir sur cette histoire parce que en fait, un jour, je suis chez Sylvie Bénard, ici présente, et il y avait Guylaine et il y avait Daniel. Et toutes les trois, vous étiez en train de parler et comme d'habitude, vous vous chamaillez, ça parlait d'environnement, mais de façon drôle. Quand on est revenu ensemble avec Fanny, je lui ai dit... qu'est-ce qu'on pense? Il y a un truc. Elles sont rigolotes. Elles s'adorent. Ça serait super de faire quelque chose. Et donc c'est comme ça qu'on a imaginé avec Fanny un podcast où on se disait que c'était intéressant que vous transmettiez vos savoirs sur l'environnement à la nouvelle génération, donc incarnée par Fanny. Et d'une certaine manière, moi c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler avec vous. Et que j'ai rencontré de façon plus professionnelle Daniel, avec qui j'ai même travaillé pour son magazine. J'ai écrit des...
Pour Valeurs Vertes.
Et voilà, je voulais juste rappeler ça pour que les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire aient un petit bout de cette histoire.
Et c'est en effet là qu'est née cette idée de parler d'environnement entre deux générations qui travaillent sur les sujets d'environnement et de celles qui, depuis bien longtemps, se battent sur ce sujet, parlent sur ce sujet et nous apprennent à nous, jeunes générations, qu'en fait, rien n'est très nouveau et que tout cela existe depuis longtemps. Alors, on va parler de Daniel, mais pour vous présenter Daniel un peu plus en détail, parce que c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment tout à fait présenté, dévoilé dans ce podcast. Alors, Guylaine, c'était qui Daniel?
Daniel Nocher. En fait, Daniel, dès son plus jeune âge, elle est accaparée par l'écriture. Elle écrit d'abord sous son nom de jeune fille maternelle, je précise bien, Percherencier. Ensuite, sous son nom paternel, Garrigou, de la poésie et des livres. Par exemple, elle a écrit à mes 20 ans, La Revanche. Et comme vous pouvez le voir, et vous l'entendrez après, ce titre, La Revanche, était assez prémonitoire. Elle est ensuite devenue professeure de lettres, et puis, enfin, journaliste. Et quelle journaliste! Elle a d'ailleurs été nommée, je le rappelle quand même, c'est important, elle y tenait, elle en était très fière, au grade de chevalier de la Légion d'honneur et chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Et d'ailleurs, malheureusement, elle n'a pu recevoir les dernières insignes car elle était trop malade. Mais c'était vraiment une fierté de recevoir, d'être par la ministre de la Culture, ces insignes dans l'art, des arts et des lettres. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Et en fait, Daniel, j'allais dire Fanny, mais Fanny aussi. Daniel, son ouverture au monde, s'est jamais démentie. Et n'est pas démontré car tout au long de sa vie, Elle s'est inquiétée du tout monde, comme disait Glissant. Tous les lieux où elle résidait, elle créait une lettre locale et écrivait pour des quotidiens régionaux importants comme Sud-Ouest, Midi Libre, La Montagne. En fait, elle faisait lien. Elle a toujours voulu faire lien, s'intéresser aux autres, s'intéresser à la communauté où elle était. Et une des aventures qui l'a, bien sûr, particulièrement marquée, c'est l'aventure du quotidien de Paris. Bon, les jeunes, vous ne pouvez pas connaître le quotidien de Paris, mais c'était un journal important, de droite, je le spécifie pour que les auditeurs qui ne le connaîtraient pas et qui s'en étonneraient. Mais et c'est là qu'elle a quand même connu aussi des personnes comme Tesson, bon, qui était pareil, un monsieur qui est décédé, mais c'était le monde du journalisme important. On soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il pouvait dire, c'était quand même des moments importants, des questionnements importants, et on pouvait vraiment débattre. Et alors, et enfin, on y vient. Pendant plus de 30 ans de sa vie, Daniel a consacré au magazine Valeurs Vertes. Premier magazine, on le dit, de développement durable. Elle l'a créé après Rio. Rio nous a tous marqués pour ceux qui étaient nés, qui étaient là, mais même ceux qui n'étaient
alors,
pas
peut-être, là. Peut-être préciser que Rio, c'est le sommet de la Terre en 1992, qui a été un des tout premiers moments, on va dire le deuxième moment où toute la Terre et les États se réunissaient en se disant « il y a quelque chose qui se passe mal, il va falloir qu'on bouge ».
Voilà. Et alors, en fait, pour vite dire, elle c'est vraiment Daniel s'est investi complètement avec rigueur, détermination, engagement. Elle a aussi, ce qui est important, créé les entretiens écologiques du Sénat pendant une vingtaine, 25 ans. Et aussi, ce qui est intéressant avec elle, c'est le cercle René Dubos. Le cercle René Dubos, alors c'est Sylvie qui pourrait parler de René Dubos, puisqu'il est agronome, Fanny aussi. Puisqu'elles sont toutes les deux c'est agronomes aussi. Voilà, vous êtes agronome. Et c'était un biologiste écologique, pas forcément complètement tourné sur ces sujets-là. C'est lui d'ailleurs qui a créé la devise « Penser global, agir local », contrairement à ce qui a pu être
tout
dit.
Tout à fait.
C'est René Dubos, c'est important de le rappeler. Et en fait, c'est René Dubos qui a aiguillé Daniel sur ces sujets de questionnement durable, d'écologie globale à l'époque plutôt. Et elle était toujours, en fait, pour dire, en avance. Elle s'énervait d'ailleurs d'entendre certains et certaines prétendre à l'originalité de leur interrogation sur l'écologie et le développement durable, sans réelles assises historiques, scientifiques, économiques. Et ça continue, comme vous le savez. On pourrait en parler. Et elle a d'ailleurs créé le prix durable de lapin. Voilà. Pour terminer, je voulais dire que notre Daniel, elle parlait de tous ces sujets avec beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, plus exactement, voilà. Elle avait de l'humour et puis elle avait accepté justement, comme le disait très bien Benjamin et puis Fanny, avec donc les copines et les copains, en fin 2018, on a créé les Tatifs Flambeuses et nous sommes là pour lui rendre un hommage et on pense à elle. Et on va continuer parce que ces sujets sont tellement importants économiquement, socialement et bien sûr notre environnement, notre terre. Donc on va continuer.
Tout à fait. Alors pour entendre Daniel, c'est ce qu'on va partager ensemble dans cet épisode. On va commencer par le premier vrai épisode parce qu'on avait fait un premier pilote qui est celui que vous trouvez comme l'épisode numéro 1, mais des Tatis sur l'empreinte environnementale du numérique qui est sorti en août 2019. Et c'est Daniel qui, la première, prend la parole pour introduire le sujet, même si, comme d'habitude, elle a rapidement été coupée par Guylaine.
Greenpeace soulignait que si le cloud était un pays, il se placerait à la 5e place de la demande mondiale d'électricité.
Le cloud, et tu veux
le
dire
cloud.
Le cloud. Mais oui, mais moi, le numérique,
Donc le cloud de Daniel.
Mais c'est un vrai clou, ce cloud.
C'est le cinquième pays en termes de consommation d'électricité.
De demande le cloud mondiale d'électricité.
Le cloud. Aussi,
et je voudrais dire aussi, alors ça, je vous pose une colle. Combien y a-t-il, et Guylaine, tu ne dis rien parce que je te l'ai dit, il y a combien de smartphones au Japon?
Combien de smartphones au Japon?
Une population de 126 millions d'habitants.
Si tu commences à dire...
À mon avis, il y en a...
Deux par... Non, pas deux par personne.
C'est pas loin, c'est pas loin. Il y en a 200 000. Il y en a 200 000.
200 millions. 200 millions.
Oui, 200 millions.
Tout il y en a plus de deux par personne.
Des millions, tout est fou. Elle me perturbe. Elle me perturbe. Elle me
perturbe. Bah, je suis là pour ça.
Ouais, ouais. Et donc, là, pour parler du recyclage, il faut savoir que ces produits... les produits, les métaux, ces métaux rares, la France était le number one il y a 40 ans et qu'elle a perdu tous ses brevets, qu'elle a vendu aux Américains qui magnifiquement les ont vendus aux Chinois. Et maintenant, il y a des problèmes de brevets, même pour le recyclage, sur ces métaux.
Si le Cloud était un pays, c'était quand même fantastique, n'est-ce pas,
Sylvie? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as rencontré, Daniel?
Alors, c'est compliqué parce que je la connais depuis très longtemps. Je pense que c'est par les entretiens écologiques du Sénat. C'était des moments assez privilégiés avec des invités de très haute qualité, que ce soit scientifique ou politique. Et c'était un lieu où étaient posées très, très en avance les questions qui nous agitent aujourd'hui. La question des minéraux là dont on vient parler, malheureusement on est en train de vivre avec la Nouvelle-Calédonie des choses compliquées à ce sujet-là, la question de l'accès au sol, la question des pesticides, tout ça c'est des sujets qu'elle a traités il y a 15 ans, au moins 15 ans. Et je pense donc que c'est par les entretiens écologiques du Sénat. Et ça me permet de rebondir sur une qualité que je trouvais absolument exceptionnelle chez Daniel, qui était, en même temps, c'est l'art du journaliste, c'est d'amener les personnes au plus profond dans ces questions. Elle avait une manière de fausse naïveté. Ah mais je comprends pas, expliquez-moi. Et elle recommençait. Oui, mais ça, j'ai pas encore tout à fait compris. Et elle poussait jusqu'à arriver à faire dire des choses que j'imagine les gens n'étaient pas prêts à dire au tout départ de l'entretien. Ça, c'était une qualité, cette fausse naïveté de Daniel dans ses questions que j'ai toujours admirée, parce qu'elle savait où elle allait.
C'était une vraie journaliste.
Oui, oui, tout à fait.
Une vraie journaliste.
Alors, le tout premier épisode des Taffetis Flingueuses, on ne l'avait pas jugé à la hauteur de nos exigences, qui sont hautes. Et il est longtemps resté dans nos cartons, mais pendant le confinement, alors qu'il n'était plus possible de nous retrouver, on a finalement décidé de le diffuser. Il portait sur le développement durable. On s'était dit, voilà, le tout premier, de quoi on parle, de ce sujet qui nous rassemble toutes les quatre sur le développement durable. Alors Daniel, dans ce moment que nous allons écouter, il apporte son expertise de plus de 30 ans sur le sujet du développement durable et donne sa propre définition du développement durable.
Alors, le développement durable, pour moi, c'est la définition, effectivement, de ne pas être prédateur sur les ressources, de ne pas hypothéquer l'avenir à la fois du monde et des habitants du monde, et en même temps, de réfléchir à une vision quasiment politique pour le futur. Et c'est préserver les ressources, l'eau, la terre, le sol, et ça correspond à 5 thèmes, l'écologie, l'énergie, l'éthique, et en même temps, ça correspond aussi à l'émotion commune. Alors là, je suis peut-être un peu tcharbée, mais si on ne prend pas cette vision pour le futur, on risque de tourner en rond. Et c'est le problème qu'on traverse à l'heure actuelle, parce que ce développement-là, il est parfois, sur le plan de l'économie, très difficile à accepter pour pas mal de populations, parce qu'on a vraiment l'impression que les gens n'avancent pas et qu'on tourne en rond. Voilà.
C'est très joli, ça, ce qu'elle dit sur le fait que ce soit, au-delà des thématiques dont on parle, une émotion commune. Je pense que c'est aussi ce qu'on a essayé de créer avec ce podcast, de au-delà de la transmission, de créer aussi une émotion qui soit un peu différente autour de ces sujets dont on parle beaucoup. Et puis nous, dans notre quotidien, on en parle encore plus.
Eh oui, notre Daniel, elle avait effectivement, il y a donc les entretiens écologiques du Sénat, on parlait du cercle René Dubos, et elle savait mettre aussi en relation des personnes qui avaient des opinions très contrastées. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec elle quand même quand j'étais dans un grand groupe industriel avec lesquels avec lequel, pardon, excusez-moi, elle travaillait, elle réfléchissait, j'aimais bien parce qu'on chamaillait, parce qu'on n'avait pas toujours, bien évidemment, et c'était heureux, les mêmes points de vue sur l'économie circulaire, sur le développement durable, sur certaines visions, mais on était quand même très proches de cette vision du monde et surtout ce qui guidait, ce qui était très fort chez Daniel, c'est son humanisme et cette compréhension du monde. Et elle était là pour nous rappeler à chaque fois que, bien évidemment, c'est quand même l'essentiel, l'humain.
Tout à fait.
Si je puis me permettre, je rajouterais au-delà même son ressenti du monde. Elle avait une manière de percevoir ce qui se passait dans le monde absolument incroyable, qui m'a toujours vraiment surprise. Elle décryptait ce qui se passait au niveau international de manière assez impressionnante et fulgurante. C'est beaucoup plus que de l'émotion. Je ne saurais pas dire.
Elle était une espèce de capacité à le...
Oui, c'est ça.
À comprendre, à palper le monde, à c'est le ça. Comprendre sous son...
Et une culture, mais alors une culture ouais. Absolument incroyable.
Son air, parce que Daniel, pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu ou rencontré, avait un petit carré blond et des boucles d'oreilles Chanel, dorées, rondes, dont je me souviens. Et puis, elle était toujours maquillée, elle était toujours très, très coquette et sous cet air-là, peut-être un peu bourgeois. Elle avait en effet cette sensibilité du monde qui était et tu parlais de lien tout à l'heure et du fait de faire lien et de faire se parler les gens et de faire se parler les mondes qui est vraiment quelque chose que je retiens et dont je m'inspire en tout cas aujourd'hui.
L'autre était important pour elle, quel qu'il soit l'endroit où il est né, où il est.
Ouais,
c'était
fait.
Pour elle important, ça c'était essentiel.
Et je pense que quand on parle des sujets de préservation de notre planète commune, quand on parle de développement durable et donc aussi de ces enjeux sociaux, l'autre doit être une de nos préoccupations et on a tendance à oublier quand on technicise un peu ce sujet, quand on devient un peu professionnel de la RSE, du développement durable, à parler beaucoup, et tant mieux, hein, aujourd'hui les enjeux environnementaux, notamment climatiques, mais à oublier un peu que l'humain, l'autre, pour moi, les sujets de démocratie, de comment on fait lien, font totalement partie de nos enjeux, de comment on habite cette planète.
Oui, puis elle s'étonnait toujours aussi de cette vision très occidentale de notre économie et d'avoir une vision ouverte sur les autres pays, les comprendre aussi. Et c'est là où elle avait, comme j'ai cité, qu'elle était, comme disait Glissant, le tout monde, c'est-à-dire qu'elle souffrait, c'est-à-dire l'importance de comprendre l'autre par rapport à ce qu'il est et elle était inquiète, bien évidemment, des évolutions du moment, comme on l'est toutes et tous, mais toujours les bras ouverts.
Et justement, pour connaître l'autre, parfois, ça peut aider de voyager. Et bien avant tout le monde, on parlait déjà dans les tatis flingueuses de l'impact du secteur, notamment de l'aéronautique, avec un épisode qu'on avait consacré à la honte de prendre l'avion. Et là encore, dans cet épisode, Daniel prend la parole en premier et nous fait un peu la morale à nous toutes et tous et aux touristes. Et elle encourageait notamment à réfléchir, à profiter plus simplement des voyages, peut-être à prendre conscience aussi du problème créé par le secteur. Elle nous parlait aussi de sa jeunesse et c'était très beau.
Moi, je crois qu'on a oublié en partie l'art du voyage. On est dans un monde de consommation. On consomme les voyages comme on achèterait un paquet de gâteaux dans un hypermarché. Et il n'y a pas ce sentiment chez la plupart d'entre nous qu'on va découvrir un autre monde. Et d'ailleurs, les grandes mégapoles ont toutes les mêmes rues avec les mêmes marques. Vous allez retrouver du H&M partout, des choses comme ça. Alors moi, je crois qu'il faut, avant de voyager, il faut réfléchir. Alors, il y a le voyage obligatoire pour le travail, pour un déplacement, pour aller rencontrer sa famille quand elle habite à 8000 kilomètres.
Dans les Outre-mer.
Voilà, dans toutes les
Martinique.
Îles. Dans la moitié du monde, parce qu'on est la deuxième puissance maritime, et ça, on l'oublie trop. Mais en ce moment, vous allez avoir le Salon du Bourget. Et à cette occasion, on s'aperçoit que l'histoire de pas voyager en avion, ça impacte aussi des gens qui réfléchissent, comme les grands patrons d'Airbus ou autres. Ils représentent des forces économiques très importantes pour la France, pour l'Europe et le monde. Ça ne les empêche pas de réfléchir à peut-être de nouvelles motorisations. Alors évidemment, les émissions de CO2 de l'aviation civile, c'est environ 2,5 à 3%. Mais le plus grave, c'est quand on compare un train par passager, un kilomètre, c'est 14 grammes de CO2. Un bus, 68 grammes. À moi aussi de donner des chiffres. Une voiture, 104 grammes de CO2. Et un avion, 285 grammes. Avec ça, on a tout dit et rien dit du tout. Parce que tous ces gens-là cherchent. Alors, ils ont plusieurs pistes. La piste, bien sûr, des nouveaux matériaux qui sont de plus en plus légers. Mais ils ont aussi un problème, parce que je lisais un dossier dans Sciences et Vie consacré à l'aviation et qui était très bien, et qui disait que le climat allait produire de plus en plus de courants aériens contraires. Oui. Donc, tout le monde sait, quand on part de New York pour aller à Paris, on va beaucoup plus vite, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a des courants aériens.
Les cirrus, non ? Tu vas parler des nuages.
Non, mais c'est au-dessus, c'est au-dessus. Donc, là, on a réfléchi, surtout, et je terminerai là-dessus, moi, je suis une fille de cheminot. Et j'ai toujours adoré les voyages en train. Et j'ai toujours fait des rencontres extraordinaires dans les trains. Il y avait des trains qui revenaient d'Espagne qui mettaient 10 heures pour faire Barcelone-Bordeaux. Et on voyageait avec les gens qui allaient faire les vendanges. Alors, ils partageaient le chorizo, ils partageaient le vin et ils racontaient leur vie. Et ça, c'est le voyage. Et maintenant, ça n'existe plus. Vous prenez un train, pop, vous mettez deux cotons dans vos oreilles, vous regardez un film et vous avez voyagé. Vous n'avez pas regardé le paysage, vous n'avez vu personne. Alors, moi, je ferais l'éloge de la lenteur retrouvée. Je ferai l'éloge des trains de nuit. Je ferai l'éloge des rencontres.
C'est beau, non ?
Ouais, c'est beau.
Et c'est tellement vrai. Je suis aussi une amoureuse des trains.
J'aimais bien ce passage parce qu'elle racontait, alors elle n'en parle pas beaucoup, mais en disant qu'elle est fille de cheminot, je trouvais que c'était intéressant. Elle a tout une histoire familiale qui est derrière elle.
Et une sacrée vie. Et elle fait l'éloge des rencontres. On a demandé à Sylvie comment elle avait rencontré Daniel. Et toi, Guylaine, comment tu l'as rencontré, Daniel ?
Eh bien, Daniel, je l'ai rencontré justement quand je travaillais pour ce grand groupe et qu'elle avait créé, bien sûr, les entretiens écologiques du Sénat. Je crois que c'est un peu ça. Je pense que je me trompe un petit peu, mais elle avait surtout aussi créé aussi dans son journal, on parlait de finances durables. Donc tout un tas de thématiques aujourd'hui, quand on dit ça, 25 ans, 30 ans, elle avait fait le numéro spécial sur la finance durable, elle avait fait des choses sur les déchets, l'économie circulaire, mais les mines de déchets, tout ce qu'on pouvait trouver comme matériaux. Donc je l'ai connue de cette façon, parce que justement elle interrogeait, elle interpellait toujours d'une façon assez marrante, et j'aimais beaucoup son humour, et on a beaucoup, donc après, travailler ensemble, avec Sylvie aussi, quand on était l'une et l'autre, on a été respectivement présidente de Auré, donc on a fait des hors-séries avec Daniel. En tout, on a dû faire, avec Auré, on a fait peut-être une dizaine de numéros spéciaux, peut-être pas autant, mais, et puis avec Veolia, des hors-séries sur tas de thématiques, et vous pouvez les retrouver, et vous verrez que ce qu'on vous dit sur le fait qu'elle était très en avance et qu'elle prenait, qu'elle appréhendait le monde et qu'elle sur ces sujets d'une façon importante. Et notamment, elle était aussi, par exemple, elle avait fait un numéro spécial sur l'Afrique, qui, on pourrait le reprendre là, et elle était, justement, elle comprenait pas un peu la France-Afrique en tant que telle, même si elle avait des amis qui étaient plutôt de la France-Afrique, on en rigolait, mais en même temps, elle questionnait ce monde, l'Afrique ou d'autres pays du monde. Elle était aussi intéressée par l'Asie, notamment familialement, elle était assez proche de ça, et à chaque fois, elle s'interrogeait par rapport à l'autre.
Le dernier épisode des Tati Flingueux, c'était déjà il y a plus d'un an et demi, en décembre 2022, pour parler de la COP 15, biodiversité. Guylaine, tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs COP, qui se tenait à l'époque à Montréal. Et ensuite, entre des agendas très chargés et le retour de la maladie de Daniel qui ne lui a pas permis d'enregistrer un nouvel épisode, nous n'avons pas pu nous réunir à nouveau en tant que Tati Flingueuse, en tout cas pour enregistrer un podcast. Et donc, dans ce dernier épisode, c'était Daniel qui concluait avec ce message en forme d'alerte générale sur le respect du vivant.
Alors, difficile de conclure après une telle conclusion, mais le sol, il faut le protéger, et il faut peut-être le protéger, je suis très terre-à-terre, moi. J'ai assisté donc à des réunions là, de paysagistes qui ont cité le cas d'arbres centenaires qui ont été coupés pour mettre des fermes photovoltaïques. Alors là, si on veut protéger le sol, c'est peut-être pas la solution. Ça peut se mettre sur des flancs de montagne où il n'y a pas de culture, mais couper des arbres. Donc il faut que chaque décision soit prise en se disant, est-ce que c'est une bonne décision pour le futur ou est-ce que c'est une décision désastreuse ? Alors souhaitons que ça soit une bonne décision de temps en temps.
Daniel avait donc ouvert ce podcast en 2019, elle l'a refermé aussi, en tout cas sous sa forme actuelle, en 2022, peut-être pour conclure cet épisode, hommage à Daniel Nocher, se poser la question de la suite, et de la suite à la fois des Tati Flingueuses, mais aussi de ce avec quoi on repart de ces années ensemble. En tout cas, jusqu'à maintenant, je vais peut-être commencer. Moi, je repars avec, on disait, cette vision du monde, de l'autre. Moi, j'ai passé des moments formidables avec vous trois, et moi aussi, je suis émue. À parler d'environnement, qui est ce sujet qui me touche, et à parler d'humain, surtout. En tout cas, c'était très chouette, et j'espère que nous pourrons continuer à la fois à parler à nos auditeurs d'environnement autrement, et puis apporter forcément la pensée et l'esprit de Daniel Nocher.
Moi, je dirais que je te rejoins complètement. Pour le moment, l'émotion est là et encore forte. Mais il ne faut pas perdre tout ça, il ne faut pas perdre tout le travail de Valeurs Vertes, il ne faut pas perdre toute la pensée de Daniel et puis ce phénomène des Tati Flingueuses. Donc donnons-nous quelques temps pour nous apaiser et trouver le meilleur moyen de continuer le sillon qu'elle a creusé.
Et oui, et puis je voudrais justement, merci à vous quatre déjà, merci tous parce que c'est ce qui a été fait, et on pense à Daniel, elle était contente d'y participer, malheureusement comme tu le disais, elle n'a pas pu continuer, mais on a fait aussi où elle était très prégnante, on a d'autres podcasts, vous pourrez les retrouver, notamment celui sur l'eau, qui était aussi fort intéressante. Et puis quand on avait fait aussi sur les élections présidentielles, où on a bien rigolé parce que les propos, donc pour préparer les élections présidentielles. Mais je voudrais justement y associer, on espère qu'avec Valeurs Vertes, justement, son magazine, on pourra justement poursuivre tout cela, Tati Flingueuse, Valeurs Vertes, parler des cercles, et on espère que tout ça pourra perdurer pour questionner ce monde qui est effectivement très compliqué.
Et en effet, avant de retrouver des nouvelles valeurs vertes et des Tati Flingueuses sous une nouvelle forme, on peut en tout cas profiter de tout cet héritage qu'elle nous laisse et de tous les 16 épisodes de podcast précédents que nous avons et qui sont disponibles. Et puis on va peut-être laisser la parole aussi à ceux qu'on n'entend pas d'habitude dans les Tati Flingueuses, donc Benjamin qu'on a déjà un petit peu entendu, et puis Emmanuel derrière sa platine, sa console.
Ouais, alors moi je voulais dire une chose, c'est que donc grâce à vous, j'ai rencontré Daniel et que j'ai adoré cette femme, que moi aussi c'était très dur de la perdre. D'autant que en fait, il y a eu ce podcast dans lequel moi j'étais producteur, donc du coup on m'entendait pas, mais j'ai travaillé avec elle en fait dans son magazine Valeurs Vertes. J'ai écrit plusieurs articles et on s'appelait régulièrement. Et elle prenait des nouvelles de ma carrière, de ce qu'on voulait faire ensemble. Vous avez beaucoup parlé des entretiens au Sénat qu'elle voulait reprendre, et on avait discuté de la façon dont on pouvait le faire ensemble. Ça se fera jamais, mais j'avais trouvé déjà beau qu'elle me fasse confiance et qu'elle se dise qu'elle pourrait potentiellement le faire avec moi. C'est une femme qui m'a transmis sa force, et c'est rare qu'on dise ça d'une femme, mais moi je vous le dis, et j'étais très fier de travailler avec elle. Emmanuel, qui est le réalisateur de ce podcast depuis le début, et donc qu'on n'entend jamais.
Eh oui, Benjamin, comme tu l'as dit, Daniel transmettait la force. Elle faisait partie de cette chaîne de transmission que certaines et certains d'entre nous connaissent. Je pense qu'on peut en parler maintenant. Je pense que de là où elle est aujourd'hui, elle continue de nous transmettre cette force-là. Moi, j'avais eu, au moment où je l'ai rencontré, donc quand je suis rentré dans l'équipe des Tatifs Flingueuses, beaucoup de discussions philosophiques avec elle qui m'avaient beaucoup apporté et qui m'ont fait grandir en quelque sorte. Voilà, donc je la remercie énormément. Merci Daniel.
Merci Daniel.
Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais.
Vous êtes sérieux?
Mais est-ce que les petits pas suffisent? Eh bien la réponse, elle est non.
Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs.
Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non.
On va tous mourir!
Le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies.
Make our planet great again.
Allô, ici la Terre, tu m'entends?
Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien.
Bon, non, on n'en sortira pas.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Rien, qu'est-ce que vous voulez faire? Éteignez en dehors.
Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.